le bonjour très fraternel de toute l'Église Lumière des Nations à Lyon. Et donc, je suis vraiment honoré, ravi d'être là parmi vous et que vous me fassiez encore confiance de prêcher. Attends. On me dit d'enlever ça. Voilà. On a vu dans la ville un slogan port. Allô? Ça va? Non. Y a quelqu'un? C'est bon? Vous m'entendez? Super. Sinon, on a vu dans la ville tout à l'heure un affichage qui disait port du sourire obligatoire. Donc je me dis, voilà, c'est bien, peut-être effectivement que j'enlève le masque. On était là initialement avec Pauline et les enfants tout le week-end, et c'était prévu depuis quelque temps parce que j'étais invité par un très bon ami à moi, sénégalais, à son mariage qui devait se passer hier à Nîmes. C'est un mariage musulman et on était invité à venir avec eux à la mosquée et voilà, profiter des festivités. Alors ça a été un peu décalé à cause voilà, de la Covid. Et puis finalement, peut-être que vous allez me revoir le mois prochain, puisque ça va être le 19 juin. Donc peut-être que je m'asseyrai et que j'écouterai la prédication ici, à voir. Et du coup, bah, on en a profité pour prendre quand même ce week-end en famille, se balader et passer du temps tous ensemble. Et on était hier, du coup, à Nîmes. Donc on a fait la matinée à Nîmes, on a vu les arènes, on a vu la Maison Carrée, on s'est baladé dans le centre. C'était vraiment agréable et j'avais jamais fait ça en fait à Nîmes. Et je me suis vraiment rendu compte à quel point c'est une super ville piétonne avec beaucoup d'arbres et c'était super. Puis l'après-midi, on est parti se balader dans la garrigue et vraiment voilà, on a passé un bon moment. Et puis finalement, on est rentré à la maison, tout le monde s'est couché et j'avais encore beaucoup beaucoup à travailler sur la prédication pour être honnête. J'étais en retard et je me suis mis à vouloir regarder un peu les chaînes d'infos. Et sur les chaînes d'infos, en fait, je me suis rendu compte que pendant que nous, on se baladait dans la garrigue, en fait, il y avait d'autres gens qui, un peu partout dans le monde, en fait, souffraient beaucoup. Et alors que nous, on a passé un moment super en famille, en fait, tout le monde n'était pas, en fait, dans ce temps agréable, ce bonheur-là, que nous, on vivait. Et qu'est-ce que je voyais? Je voyais évidemment le conflit au Proche-Orient, les bombes, les manifestations, les bandeaux en dessous qui parlaient de la maladie. Et puis après, sur les réseaux sociaux, les gens qui s'invectivent sur toutes ces choses-là, qui se parlent, qui des fois se traitent de noms d'oiseaux parce qu'on n'a pas la même position. J'avais pas envie de débattre. J'avais pas envie d'argumenter, j'étais un peu touché en moi. Et je pensais aux gens qui mouraient, tout simplement, et en particulier aux enfants. J'avais comme un visage d'enfant en tête. Et je me disais que, ben voilà, il y a des enfants qui disparaissent sous des bombes. Et j'avais pas envie de discuter, j'avais pas envie de polémiquer. Je suis allé sur l'agence France Presse et puis j'ai vu tout un graphique sur l'évolution du Covid, et puis j'avais pas envie de parler de ça parce que j'avais en tête vraiment notre ami Roscoe. Je sais pas si vous connaissez Roscoe, qui est dans notre église à Lumière des Nations, qui est reparti en Inde et qui cette semaine a perdu sa maman du Covid et qui en même temps est en train d'être au chevet de son père qui est aussi touché et qui sait pas encore que sa femme est morte, qui va se réveiller veuf, ou bien qui va pas se réveiller, qui va laisser son fils deux fois orphelin. Bon. J'ai décidé de faire un truc un peu fou ce matin, c'est de vous prêcher l'évangile. Ah, je sais, c'est pas la mode, mais on va essayer de faire ça. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Hein? Et je sais que vous n'êtes pas venu ce matin pour réécouter les superbes infos des chaînes d'information en continu. Mais il y a un diagnostic biblique sur ce monde. En 2008, je travaillais dans un foyer d'action éducative du ministère de la Justice, pour des mineurs en délinquance, qui sont placés là, soit pour des faits de délinquance, soit pour des crimes, et qui sont en alternative à l'incarcération. Et j'étais dans ce foyer en tant qu'éducateur, et j'ai vu des gamins complètement désastrés, dans la détresse. Et ils n'étaient pas seulement dans la détresse, ils n'étaient pas seulement des victimes, ils avaient une culpabilité aussi qui était extrême. Ils avaient fait beaucoup de mal pour certains. 12 jeunes dans un foyer, et j'étais là et je me disais, mais en plus, l'administration était faite de manière tellement bizarre. Dans ce foyer, j'avais des jeunes, près de la majorité, violents. Certains qui avaient commis des agressions sexuelles, des tournants, ce genre de choses, à côté duquel il y avait un gamin de 13 ans, et qui lui était là pour inceste sur sa sœur de 10 ans. Oh, je suis désolé, je n'ai pas commencé par des bonnes nouvelles. À côté, il y avait une jeune fille. C'est pas grave, excusez-moi. Ça m'arrive. Qui était là parce qu'elle était en danger à cause de sa famille. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Je ne comprenais pas. Et bon, on était là avec la foi, l'amour de Dieu, et on faisait ce qu'on peut. Et avant de parler de ce que Christ nous offre, on est obligé de prendre conscience de ce que Satan nous a volé. Hein? Des effets de la chute. Parce que sinon, on ne comprend pas l'évangile, vraiment, véritablement, le fond de l'évangile. Et ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle nous parle de la réalité, nous parle du cœur humain, de la corruption du cœur humain. Et pour dire très, très, très simplement, lorsque la Bible nous parle du cœur humain, et de sa corruption, elle ne nous dit pas que le cœur humain a besoin d'un petit pansement spirituel pour être réparé. Elle nous dit que le cœur humain est corrompu à l'extrême. On ne peut pas réparer ça avec un petit pansement. Ce n'est pas possible. Et elle nous dit que chaque homme est affecté profondément. On a notre cher réformateur Jean Calvin qui parlait d'une corruption totale ou d'une dépravité totale du cœur humain. Alors, le mot total, pour lui, ça ne voulait pas dire aussi profondément que possible, parce que sinon on serait là déjà tous en train de s'entretuer. Mais ça voulait dire que toutes les parties de l'être humain sont affectées par le mal. Les pensées, les désirs, la volonté, les émotions. Tout en nous a été touché et affecté par le mal qui est venu par le péché d'Adam et Ève. On a hérité de cette nature. On connaît ce diagnostic. Je connaissais ce diagnostic avant d'arriver au foyer. Mais au contact de ces jeunes, j'ai pris encore plus profondément conscience de la gravité de la situation, le mal profond qui nous affecte. Et à cause de ça, j'ai eu envie de mieux saisir la question, de mieux comprendre la nature de l'homme. Et ça faisait déjà 10 ans que je marchais avec Christ. J'étais né de nouveau, mais j'avais besoin de plus. Et je me suis inscrit dans une faculté de théologie et je voulais écouter Dieu pendant au moins 1 an sur ces questions-là. La Bible nous parle du cœur de l'homme. Et le problème, c'est que ce n'est pas dans le Nouveau Testament, sous les écrits de Paul, qu'on découvre ça. Dès les premiers chapitres de la Bible, dans Genèse 6,5, il écrit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées et le cœur se portaient vers le mal. Hein? Le bilan, il est dès le départ, rapidement après le péché d'Adam et Ève. Et si on ne comprend pas la profondeur de la corruption du cœur humain, on ne peut pas comprendre beaucoup de décisions que Dieu a prises dans la Bible. Parce que c'est impossible de comprendre le déluge, le fait que Dieu prenne un décret pour que le monde entier soit inondé et que l'espèce humaine meure, si ce n'est dans sa grâce, quelques-uns, si on n'a pas compris la gravité du péché. David déclare, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ici, David n'est pas en train de dire que quand sa mère l'a conçu, elle faisait un péché. Il est en train de dire que en tant qu'enfant, dès sa naissance, dès qu'il naît, il reçoit cette nature, malheureusement, de pécheur. En fait, c'est triste. C'est vraiment grave, c'est profondément triste. Le prophète Jérémie, dans Jérémie 17, 9, dit « Le cœur est tortueux, par-dessus tout, il est incurable. » Il est incurable. Psaume 14, 3, « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et Paul, dans le Nouveau Testament, va reprendre ce diagnostic. Et il va dire, je vais le lire directement ici. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents nullement ? Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il y est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sous leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Paul, il parle du péché chez les Juifs et chez les Grecs, et tous sous l'empire du péché, tous. Et si on regarde ce texte, il est en train de nous dire, gosier, langue, lèvres, bouche, pieds, yeux, tous les aspects de nous. Il y a une phrase très simple d'un théologien qui s'appelle Sproul, qui résume la situation. Il dit, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons parce que nous sommes pécheurs. C'est très simple. Et toute l'histoire dans ce livre nous l'apprend. Toutes les nations ont été perdues dans l'idolâtrie et la nation à laquelle Dieu s'est révélé n'a pas réussi à être fidèle parfaitement à son alliance. Même avec la révélation de Dieu, même avec la loi, il a fallu une autre solution. Il a fallu la mort de notre Seigneur Jésus. Et quand Jérémie dit « le cœur est incurable », c'était ma question. Est-ce que vraiment le cœur humain est incurable ? Est-ce que mon cœur est incurable à moi aujourd'hui? Est-ce que je vais rester comme ça, dépité dans mon péché? Ou en train d'observer le péché qu'il y a dans le monde? Ou est-ce que dans la bonne nouvelle de l'Évangile, il y a quelque chose qui parle autrement du cœur que comme le décrivent ces versets? Est-ce qu'il y a une espérance pour le cœur humain? Oui. Il y en a une. Il y en a une. Dans la Bible, on nous parle du cœur tout le temps. Le mot cœur, c'est leb en hébreu, c'est cardia en grec. Et lorsqu'on regarde les textes de la Bible, le cœur, c'est plus que ce petit muscle qui bat là. C'est même pas très souvent le cœur physique dont il est question dans la Bible. Le cœur, notamment chez les Hébreux, c'est le centre. C'est ce qui est au centre. Et On peut même le voir dans des versets qui ne parlent pas du cœur humain. Par exemple, dans Jonas 2, « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. » Au cœur de la mer. C'est le même mot qui est utilisé. Et dans le Nouveau Testament, on a exactement la même chose. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. C'est intéressant. C'est le même mot. Le cœur, c'est le centre des attributs de l'homme. C'est du cœur que naissent les désirs. C'est du cœur que la personnalité fonctionne et s'exprime. C'est pour ça d'ailleurs que Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein? » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Plusieurs spécialistes du texte biblique nous expliquent que le cœur dans la Bible, si on voulait prendre une expression moderne pour dire le cœur, c'est la personne. En fait, tout simplement, c'est la personne. Dans la Bible, on trouve des versets qui utilisent le mot cœur pour parler de la vie intérieure d'une personne, de son caractère en général, de ses états affectifs. Le cœur est parfois lié au courage, à la tristesse, à la joie, à l'activité mentale, à l'attention, à la réflexion, au souvenir, à l'intelligence, à l'habileté technique, à la volonté et aux intentions, et parfois même à l'ivresse. On comprend que si le cœur va mal, tout l'homme va mal. Comme dirait notre cher George Key, le cœur du problème humain, c'est le problème du cœur humain. Et le Seigneur est venu pour régler quelque chose à cet endroit-là. Et comme je sais que vous avez tous un cœur, je sais que vous êtes tous touchés par cette prédication. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu a quelque chose à vous dire. Il a quelque chose à nous dire. Dernier petit verset pour enfoncer le clou. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, c'est Jésus qui parle. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Voilà le problème. Bon. Il ne faut pas que j'arrête là. Hein. Dans Ézéchiel 11, 19, il est écrit « Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être le cœur dur comme de la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Et Ézéchiel, il le dit 3 fois. Il le redit dans Ézéchiel 18, 31 avec une petite variante. « Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, Jean d'Israël ?» Et il va redire, Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur comme de la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ici, Dieu parle de remplacer un cœur de pierre par un cœur de chair, un cœur mort par un cœur vivant, un cœur froid par un cœur chaud, un cœur dur par un cœur tendre. Et en fait, il est en train de nous dire qu'il peut faire quelque chose avec nos cœurs. Vous imaginez ça? Rien n'est impossible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Et Dieu peut faire quelque chose avec le cœur de l'homme. Il peut. Mais déjà le savoir, pour commencer à avoir foi, le savoir, Dieu peut changer ton cœur, mon cœur, nos cœurs. Ce n'est pas hors de sa portée. Il y a un autre prophète qu'Ézéchiel qui parle, dans Jérémie 31, 31, qui dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Imaginez-vous la loi de Dieu écrite dans vos cœurs, de telle sorte que naturellement, tout simplement en battant du cœur et en respirant, vous accomplissiez les commandements de l'Éternel. Ce ne serait pas waouh, ce ne serait pas magnifique, ce ne serait pas extraordinaire. Ça serait bien. Hein. Alors, peut-être que vous avez envie de me dire, ouais, mais Rémi, Ézéchiel et puis Jérémie, ils parlaient au peuple d'Israël, ils ne parlent pas à nous. Il y a écrit peuple de Juda, il y a écrit Israël. Est-ce que ça nous concerne? Peut-être que ça les concerne eux. Si vous le pensez, vous avez tort. Dans 2 Corinthiens 3:3, Paul dit à cette église remplie de païens, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Paul va mixer les deux prophéties d'Ézéchiel et de Zacharie, celle du cœur et des tables, pour dire, ça se réalise en vous par l'esprit. Ça veut dire que si ta compréhension du changement du cœur, c'est qu'au retour de Jésus, tu n'as pas bien saisi le texte biblique qui dit déjà 2000 ans à des païens dans l'Église qui reçoit le plus de reproches du Nouveau Testament, vous êtes une lettre de Christ qui grave dans vos cœurs par son esprit sa loi. Punaise, Dieu a commencé une œuvre. Une œuvre pour chacun de nous, par l'esprit. Aujourd'hui, on est dans des églises de tradition protestante. On a beaucoup insisté sur le fait que Dieu nous justifie par grâce, par la foi, et tout commence là, à la croix. Mais parfois, on s'est arrêté là. Parfois, on s'est arrêté là. Je suis juridiquement sauvé par l'œuvre objective du Christ. Mais c'est quoi l'œuvre subjective du Saint-Esprit dans ta vie? Et est-ce que Dieu dit des choses par rapport à ça? Est-ce que tu es resté bloqué à la prédication de la justice juridique de Dieu? Est-ce qu'il avait que ça de prévu dans le plan? Est-ce que c'est vraiment ce que dit le texte biblique? Est-ce que ton cœur est obligé de demeurer là et pas plus? De se réjouir d'être un pécheur pardonné, mais de ne pas se réjouir de la sanctification continuelle que Dieu veut faire dans ta vie. Et je sais que c'est le cas pour certains, j'en suis sûr. En tout cas, ça a été plein de fois dans ma marche chrétienne le cas pour moi. Et je me dis qu'on ne doit pas être si différent. Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. On a la vie par l'Esprit. On a reçu la vie en abondance que Jésus promet dans Jean 10, par l'Esprit. Mais on ne fait pas que vivre par l'Esprit, on marche par l'Esprit. Marcher dans ta vie. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, il écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ma question, jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est une nouvelle créature? Parce que si vous voyez une nouvelle créature que vous n'avez jamais vue, vous allez être étonné. Ça, j'avais jamais vu ça. Vous êtes une nouvelle créature. Notre justification est par la foi. Mais qu'est-ce qui n'a pas encore été saisi par la même foi? Parmi nous. J'ai quelques questions pour vous. Vous avez le droit de répondre si vous voulez. Est-ce que vous êtes en Christ, vous? Voilà, quelques-uns. Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu sur terre? Vous croyez? Ok. Est-ce que vous croyez qu'à la croix, il a remporté une victoire contre Satan et ses anges? Vous le croyez? Est-ce que vous croyez qu'il a pris sur lui la colère que méritait votre péché? Amen. Si vous le croyez que vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez venir. Hein. On peut s'occuper de ça. Est-ce que vous croyez que par la foi et par votre baptême, vous êtes devenu une seule plante avec le Christ? Vous croyez? Est-ce que vous croyez que son sang vous a réconcilié avec Dieu le Père? Que vous êtes adopté dans la famille de Dieu? Qu'il vous a pardonné et purifié de vos péchés? Que vous êtes devenu un enfant de Dieu? Que vous êtes cohéritier avec Christ? Que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes? Que vous avez été rapproché par le sang de Christ pour bénéficier de toutes les bénédictions de la Nouvelle Alliance? Vous croyez ces choses? Et vous ne devriez pas changer de comportement dans vos vies? Ce que j'aime, c'est qu'on a été fait, comme dit Romains 6, une plante avec lui dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection, pour marcher en nouveauté de vie. Alors je sais peut-être que parmi vous, il y en a 1, 2, 3, 10 qui sont bloqués avec un péché récurrent, qui ont abandonné sur certaines habitudes et qui ont dit « c'est bon, ça sera pour le retour de Jésus, j'arrête, je n'y crois plus ». Alors c'est un peu drôle que je le dise comme ça, mais c'est souvent triste en fait dans ta vie. Nouveauté de vie, marcher par l'esprit. Est-ce que tu as arrêté de marcher par l'esprit dans certains domaines? C'est possible. Encore une fois, moi ça m'arrive, hein. Donc peut-être pas vous, mais moi ça m'arrive. Jésus a des promesses incroyables. Jean 7, 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit change absolument tout dans notre vie. De notre sein coule une source jaillissante. Jean 4, 14. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira dans la vie éternelle. Elle jaillit jusque dans la vie éternelle, mais elle jaillit dès aujourd'hui. Dès maintenant. Réellement. Alors peut-être qu'il y a des pierres qui bloquent le puits, mais la source, elle est là et elle est prête à jaillir à nouveau dans ta vie. Satan est fort pour te faire croire que tu n'as pas les bénédictions que tu as en Christ. Tout est en Christ. Et ce n'est pas que pour demain. Ce n'est pas que pour demain. Jésus déclare, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dans ce siècle. Trop de chrétiens sont bloqués en attente du retour de Jésus. Trop. Je ne sais pas ce que tu as quitté pour le Seigneur, mais je sais que le Seigneur a des choses pour toi ici, maintenant, dans ta vie. J'ai aimé la prière de Véronique tout à l'heure, quand elle priait, « Seigneur, ouvre-nous les yeux sur ta beauté, mais surtout sur ta puissance. » Et là, je ne suis pas venu vous faire l'évangile de prospérité, l'évangile de puissance. Je vous parle d'une puissance qui transforme vos cœurs. Est-ce qu'on a perdu la foi dans la capacité de Dieu à nous donner un cœur nouveau? C'est ça ma question. Est-ce qu'on a perdu la foi en la puissance de Dieu pour transformer ce qu'il a appelé? Cette parole de vie, cette parole de résurrection qui a commencé il y a peut-être quelques années dans ta vie, elle est toujours aussi puissante aujourd'hui pour toi. Mais est-ce que tu la reçois? Christ te change, me change, nous change, nous transforme de gloire en gloire, nous prépare pour les noces de l'agneau, nous rend sans tache ni ride, nous sanctifie. Mais tout ce que Christ a à nous donner s'acquiert par la foi. Et peut-être que tu as gardé foi dans sa justification, mais tu as perdu foi dans ça. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que Dieu le restaure dans ton esprit. Oui, tu vas changer. Oui, tu vas sortir de cette habitude, là. Amen. Quand on regarde la manière dont Jérémie parlait, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Mais Jérémie dit aussi « Faites-vous un cœur nouveau ». Et on comprend qu'il y a une collaboration alors. Tout vient de Christ, mais en nous. Et Dieu nous dit « Lève-toi un peu et saisis les choses qui sont là à porter ». Alors si tu l'as fait par des moyens religieux, par une notice de vie, tu n'as pas réussi. Mais si tu le fais par l'Esprit, oui, il y a encore du chemin de gloire devant toi. Vraiment. Tu désires un cœur nouveau ? Alléluia. Dieu veut te le donner. Je crois, moi, qu'on peut vivre une vie où le diable n'a pas l'avantage sur nous, mais nous avons l'avantage sur lui. Je crois qu'on peut vivre une vie où le péché n'a pas l'avantage sur nous, mais nous avons l'avantage sur le péché. Et je crois, oui, que nous allons encore pécher, malheureusement, et je le dis parce que nous sommes dans nos corps pas glorifiés, que la chair existe en quelque sorte, et que dans ce corps non glorifié, on va être toujours tenté de choses. Okay ? On n'est pas encore arrivé à l'état final de glorification, mais on peut ne pas pécher, et on peut marcher par l'esprit et non selon la chair. Oui, on peut encore marcher selon la chair, mais on peut marcher par l'esprit. Et ce n'est pas parce que ça fait longtemps que tu marches selon la chair et que tu as perdu foi dans ta propre transformation qu'en réalité, ce n'est pas possible. Dieu te rappelle à ça. Dieu te rappelle à ça. Je suis venu pour te donner un cœur nouveau. Pourquoi sinon il nous parlerait du fruit de l'esprit dans Galates 5? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la patience, bienveillance. Et la loi de Dieu n'est pas contre ces choses. Ceux qui ont l'esprit arrivent à entrer dans des réalités que parfois ceux qui avaient la loi sans l'esprit n'ont pas réussi à pénétrer. Or, si les Corinthiens sont une lettre de Christ écrite par l'esprit sur le cœur, vous êtes une lettre de Christ écrite par l'esprit. Vous, ici. L'esprit nous aide même dans la faiblesse de nos prières. C'est ce qui est écrit dans Romains 8, 26. De même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On n'est pas laissé à nous-mêmes, l'esprit intercède pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Enfin, je sais pas si on... L'Esprit Saint, aujourd'hui, il est en train d'intercéder auprès du Père, pour toi, maintenant. Est-ce qu'on a conscience de ça? Dieu prie. Dieu pour toi. Ok, je veux citer ce verset à nouveau. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. Dieu veut notre sanctification. Il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament, en particulier chez Paul, mais pas que chez lui, qui disent le mot « autrefois ». Si vous voulez continuer ce que vous commencez à entendre dans cette prédication à la maison, allez chercher tous les versets où Paul dit « autrefois ». Je vais vous en citer quelques-uns. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Autrefois, Paul persécutait l'Église. Et je ne vous dis pas la suite. Galates 4, 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont plus de leur nature. Autrefois, vous étiez idolâtres. Éphésiens 2, 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et je ne vous dis pas la suite. Mais ce que je vous dis, c'est que tous les autrefois ont un « mais maintenant ». Mais maintenant. Je vous en cite quand même un dans Éphésiens 5, 8. Ce verset, il est pour toi. Vraiment, reçois-le. C'est vraiment ma prière. Reçois ce verset pour toi, aujourd'hui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Est-ce que Dieu est méchant au point que par ses apôtres, il va nous demander de faire des choses impossibles ? Non. Dieu est bon de sorte que par ses apôtres, il va nous demander de faire des choses impossibles. Sans lui, mais possible avec lui. C'est sa bonté qui s'exprime. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, j'étais ténèbres. Moi, avant d'arriver dans ce foyer-là, j'avais une vie, je connaissais des choses du mal, j'avais pratiqué dans mon adolescence, dans ma jeunesse, avant ma conversion. J'étais un bagarreur, j'ai volé et j'ai tapé. J'ai même participé à un lynchage. Heureusement que le Seigneur est venu me chercher tôt. Heureusement. Autrefois, je marchais comme ça. Dans Éphésiens 5, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et ça, c'est en fait l'exemple par excellence. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ, c'est possible. C'est possible. Et la suite, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous avez vu les exigences de Paul pour cette église ? Qu'aucune de ces choses ne soit mentionnée parmi vous. Alors peut-être qu'à chaque fois que vous lisez ça, vous êtes là, vous êtes « mince, il y a au moins un ou deux péchés dedans, c'est moi. » Il est en train de dire que c'est possible. Il est en train de dire que c'est possible de ne pas vivre selon ses péchés. Il réclame ce comportement aux saints parce qu'ils peuvent le faire par l'Esprit Saint. En fait, c'est encourageant. Et Satan est tellement fort qu'il il t'aide à lire ce verset dans la condamnation, la culpabilité, au lieu de voir l'espérance qu'il y a là-dedans. C'est possible. C'est possible. Punaise. C'est quoi notre christianisme bidon, où on n'a plus confiance en Dieu qui peut changer nos cœurs et nos actions. Oh, vous êtes la lumière du monde, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ils verront que vous êtes mes disciples. Ils voient quoi, les gens ? Toutes ces choses, elles ont été dites pour rien, pour qu'on soit sur off, en veille, en attente que le Seigneur revienne. Non, non, la rédemption, elle commence maintenant dans ta vie. Il faut que tu réécoutes la parole. Elle te dit que tu peux changer. Il ne faut pas que tu écoutes le serpent. Il te parle trop. Tu ne lis pas assez ta parole. Tu ne la médites pas assez. Elle est pleine de promesses pour ta vie aujourd'hui. Et par l'esprit, le fruit, la joie du Seigneur, cette huile qui va être une force pour ta sanctification, pour combattre le bon combat de la foi. Punaise, il y a au moins un, deux, trois péchés dont tu peux penser aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en détacher et tu vas croire le Seigneur qu'il peut le vaincre parce qu'il l'a vaincu à la croix, dans ta vie. Tu vas te remettre à croire cette vérité. Ça suffit, l'apitoiement. Ça suffit. C'est quoi cette foi superficielle qu'on a ? Dieu change nos cœurs. Il a fait à la croix l'œuvre nécessaire pour que les puissances soient vaincues. Il a triomphé d'elles à la croix. Ok ? On a des versets qui nous disent « Résistez au diable, il fuira loin de vous. » Vous avez la puissance de faire fuir le diable. C'est ça notre héritage. Allez, on sort de cette léthargie spirituelle. Christ, change ton cœur. Et par la foi, saisis-le. Re-regarde là ces quelques montagnes de ta vie. Il va les aplanir avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide des frères et sœurs, par la confession de vos péchés. Hein? Parce que ça ne se passe pas juste tout seul. Christ, il a mis l'Église. Qui prie avec toi pour les péchés dont tu n'arrives pas à te défaire, pour les habitudes dont tu n'arrives pas à te défaire? Personne. Ah, c'est que Satan t'a bien eu. Il t'a dit, isole-toi, c'est trop la honte. Isole-toi avec ça. Joue un personnage, sois un chrétien que les gens vont regarder comme bon chrétien du dimanche, ce sera mieux pour toi. Est-ce que dans cette église, on confesse ses péchés les uns aux autres? Est-ce qu'on a peur de dire que voilà, j'ai un problème avec telle ou telle chose? Si oui, là, il y a un problème. Parce qu'ici, il n'y a que des pécheurs. Hein. Que des pécheurs pardonnés. Alors, bien sûr, soyez vigilants. Parlez avec des gens qui ont compris la grâce. Je ne vous dis pas de répandre vos vies n'importe comment. Mais trouvez, punaise, trouvez. Dans cette église, il y a beaucoup de gens, quand même, qui ont une oreille. Hein? Je dois finir. Alors, je vais finir par la prière. Notre Dieu, tu es le Dieu des miracles. Et Seigneur, ouais, réveille-nous. Parce que dans ta grâce, tu ne nous as pas seulement justifiés. Ceux que tu as prédestinés, tu les as appelés. Ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu les as glorifiés. Et dans ce processus, dans cet ordre du salut, tu as dit régénération, tu as dit sanctification, tu as dit que nous avons été préparé d'avance afin de pratiquer les œuvres bonnes que tu avais prévues de toute éternité. Oui Seigneur, je crois profondément que tu peux changer nos cœurs, que tu peux changer nos habitudes, que tu peux changer nos vies, nous donner un cœur nouveau. Seigneur, tu as tout accompli pour ça. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous perdons la foi dans cette partie de ton évangile. Lorsque nous sommes des chrétiens dans l'apitoiement, lorsque nous sommes des chrétiens ont abandonné. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Je prie maintenant que la foi renaisse, qu'elle se saisisse de cette vérité que Dieu nous change. Qu'aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, tu puisses déverser ton esprit maintenant sur cette assemblée, tous ceux qui écoutent, et recevoir à nouveau, par le renouvellement de l'intelligence, de saisir les promesses que nous marchons à ta ressemblance, que nous croissions de tous égards à ta ressemblance, que nous sommes appelés à être saints comme tu es saint, parce que c'est possible par ton esprit, parce que tu le fais en nous. Seigneur, je prie aujourd'hui pour que plusieurs recommencent une collaboration avec ton esprit dans cette marche, dans la sainteté, dans la sanctification. Oui Seigneur, encourage, encourage mon frère, encourage ma sœur. Seigneur, je t'en prie, convainc-le de ta puissance pour le changer. De ta puissance pour le rappeler, lui rappeler que tu as prévu qu'il soit un homme, une femme nouvelle, qui marche en nouveauté de vie. Seigneur, je te prie que dans cette église, on voit la pudeur, on voit la simplicité de cœur, on voit l'humilité, on voit tout ce que Paul réclame aux églises. Que ça devienne actif aujourd'hui. Oui, Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Ah, merci pour ta bonne nouvelle, cet évangile, qui me sauve, mais qui me transforme. Tu es mort, mais tu es ressuscité. L'esprit de résurrection puisse combler vos cœurs et vous guider. Au nom de Jésus. Amen.